Vous écoutez RTL.
Bonjour Harlem Désir.
Bonjour.
Le gouvernement a fait marche arrière ce week-end sur la taxation des PEA et des PEL. Si la décision était mauvaise, pourquoi l'avoir prise ?
Le gouvernement a voulu être à l'écoute, attentif à la réaction des petits épargnants. Et la priorité, c'est effectivement de défendre le pouvoir d'achat des Français. En même temps, il s'agit de la loi de financement de la sécurité sociale. Et nous n'acceptons pas de voir s'accumuler les déficits de la protection sociale. Parce que c'est le bien-être des Français qui est en jeu. C'est leur droit à la santé, c'est leur droit à l'hôpital public.
Donc, la décision était mauvaise. Donc pourquoi l'avoir prise ? Ce qui surprend dans cette affaire, c'est le mode de fonctionnement du gouvernement qui nous laisse un peu sans voix. On prend une décision et puis on la retire.
C'est un amendement qui est venu. Oui, c'est un amendement qui est venu dans le courant du débat parlementaire.
Présenté que par les deux ministres,
oui, dans le
Touraine
courant,
et Cazeneuve, dans la conférence de presse du 26 septembre.
Dans le courant de l'échange avec le Parlement,
non,
sur la base d'un projet initial.
Ben,
écoutez, moi je préfère un gouvernement qui ne s'obstine pas, qui écoute, qui est attentif à la situation et à la perception par les Français de la politique qui est menée. Nous sommes dans un moment difficile pour les Français. La situation du pays, elle est en train de se redresser. La reprise est là. Le chômage augmente moins. Celui des jeunes même baisse depuis 5 mois de suite. Il y a les emplois d'avenir qui sont en train de monter en puissance. Il y a les aides aux entreprises pour les aider à investir, le crédit d'impôt compétitivité emploi, le crédit d'impôt recherche, les financements par la Banque publique d'investissement. Tout cela est en train de produire ses effets. Mais la situation est encore difficile, elle est encore fragile. Et donc je préfère que le gouvernement ait été à l'écoute
et qu'il ait
renoncé à taxer différemment les produits d'épargne, voilà, qui étaient concernés. Il faut dire aussi que toute l'épargne n'était pas concernée.
On peut dire que la crédibilité en prend un coup, quand même. On peut en convenir ce matin, Harlem Désir.
Mais écoutez, qu'est-ce qu'on préférerait ? On préférerait un gouvernement qui ferme les oreilles, qui soit autiste et qui n'entende pas ce qui monte du pays.
Non,
moi, je préfère le dialogue, je préfère qu'on soit très sensible à ce que vivent les Français quand on prend des mesures.
Pour développer mon raisonnement, si on dit que la crédibilité en prend un coup, il y a bien un responsable quelque part. Il ne faut pas que quelqu'un paye cette erreur.
Qui va nous donner des leçons de crédibilité ? La droite qui a laissé les déficits de la sécurité sociale exploser ? La droite qui nous avait fait croire que les régimes de retraite étaient sauvés après la dernière réforme ? Et puis ensuite, on a le Conseil d'orientation des retraites qui dit qu'il y aura 20 milliards de déficit, c'est-à-dire on va baisser les retraites à l'horizon 2020. Nous nous sommes saisis du dossier. La droite qui a laissé 600 milliards de dettes de plus dans les caisses de l'État et qui aujourd'hui encore propose, je vois Monsieur Copé ce matin dans le Figaro, qui propose de quoi ? De rétablir le bouclier fiscal, de baisser l'impôt de solidarité sur la fortune, c'est-à-dire à nouveau de laisser se creuser les déficits.
Et
en contrepartie,
il
fera quoi ? Il va supprimer des milliers de postes d'enseignants ou d'infirmières, comme ils l'ont fait pendant les 10 années où ils ont gouverné. Nous ne faisons pas cela. Nous avons été obligés de nous saisir d'une situation qu'on nous a laissée, où la force économique et financière de la France avait été mise à terre. Nous sommes en train de la redresser, et nous voulons dire aux Français, nous allons tenir bon, comme cela a été dit, jusqu'à ce que l'emploi redémarre.
C'est dit. La droite n'a rien à faire dans cet aller-retour PEA-PEL. Et ma question, c'était, si une erreur a été commise, il n'y a pas un responsable, il n'y a pas quelqu'un à sanctionner, il n'y a pas une décision à prendre qui montre que, au sein du gouvernement, des gens sont responsables de quelque chose. Et si une erreur a été faite,
quand on agit, Jean-Michel Apathy, il peut arriver qu'on s'aperçoive qu'on a une erreur à corriger.
Il vaut mieux
la corriger.
Qu'on
avait prévu une disposition qui paraissait, sur le plan technique, rationnelle, mais qu'on avait mal évalué sa perception. Eh bien, à partir du moment où notre priorité, c'est bien de garantir le pouvoir d'achat des catégories moyennes et modeste, et que là, il s'agit de l'épargne des catégories modestes et moyennes, et déjà nous avions évidemment dit que nous ne toucherions pas au livret A ou au livret de développement durable, ces contrats aussi, contrats d'épargne en action, PEL, seront écartés de cette mesure fiscale.
Faut-il ajourner l'écotaxe en Bretagne, comme le réclame un député socialiste, par exemple, Jean-Jacques Urvoas, député du Finistère.
Oui, j'étais avec Jean-Jacques Urvoas dans le Finistère ce samedi et j'ai rencontré tous nos parlementaires.
Faut-il ajourner l'écotaxe ?
Il y a un rapport qui va être remis aujourd'hui même par le ministre de l'Agriculture et le ministre des Transports au Premier ministre pour proposer des mesures qui permettent de répondre aux inquiétudes de la Bretagne. Ce que je veux dire, c'est que la Bretagne est écoutée et elle sera entendue par le gouvernement.
Et si
maintenant,
on...
il revient au Premier ministre, sur la base de ce rapport, d'annoncer les aménagements de cette écotaxe.
Et si on aménage l'écotaxe en Bretagne, Ailleurs, dans les autres régions, on me dit quoi ? Ben, vous la payez pleinement ?
Il y a d'autres régions également pour lesquelles des aménagements
ont été prévus. Aquitaine et Midi-Pyrénées.
Exactement. Parce que je voudrais rappeler que cette écotaxe.
Excusez-moi. Non, oui, elle finance les.
Non, c'est pas ça. Elle avait été décidée par le gouvernement précédent et elle n'avait pas été véritablement
mise en place. Toute la faute de la droite.
Mais non, mais c'est la réalité. Elle a été votée sous Fillon. Rien n'était prêt. Il a fallu qu'on la reporte, qu'on aménage pour trois régions et qu'aujourd'hui, on fasse. On est à faire face à ces difficultés en Bretagne.
Il y a 22 régions, qu'est-ce qu'on dit ? Puisque 19 autres régions, alors, qu'est-ce qu'on leur dit ?
D'abord, comme
on leur dit, vous la paierez plein pot ?
D'abord, il y a des aménagements déjà dans deux autres régions. Il y a des problèmes d'enclavement, d'éloignement. En Bretagne, il n'y a pas d'autoroute. C'est là où il y a les autoroutes, il n'y a pas l'écotaxe.
Mais les autres régions, elles n'ont rien à espérer.
Les autres régions également ont des aménagements. Vous avez mentionné notamment Midi-Pyrénées et Aquitaine.
Midi-Pyrénées-Bretagne. Mais les autres régions, les 19 autres, mais rien à espérer.
Toutes les régions vont contribuer à l'écotaxe, mais il faut l'adapter en fonction du réseau routier. Par ailleurs, elle sert elle-même à financer l'amélioration des infrastructures routières et ferroviaires, ce dont la Bretagne a également besoin. Et elle doit prendre place dans le plan Avenir Bretagne qui a été présenté par le Premier ministre.
Savez-vous combien le club de football de Saint-Étienne a gagné d'argent en 2012 ?
Non,
j'en suis. 300 000 euros. La taxe à 75%, si elle est votée en l'État, va lui coûter 1 million d'euros, 3 années de bénéfices. Mais ça vous paraît rationnel, ça ?
D'abord, la taxe à 75% concerne. Non, mais elle est plafonnée pour les clubs de football à 5% du chiffre d'affaires.
Eux sont au-dessus. Oui. Ils ne seront pas concernés par le plafond.
Je le comprends bien à l'exemple que vous donnez.
300 000 euros gagnés par an, la taxe, une seule taxe qui vous coûte 1 million.
Oui, mais ça tient au fait qu'il y a des salaires supérieurs à 1 million d'euros, je l'imagine. Okay. Donc on ne peut pas. Bah sinon, on ne paye pas la taxe à 75%.
Si, parce que s'ils gagnent des matchs, ils ont des primes et ils dépassent le million.
D'accord.
Quelques joueurs dépassent le
donc
million.
Des revenus.
Vous rendez compte un peu de l'usine à gaz que représente cette taxe à 75%. Ma question, c'est, là aussi, est-ce que ça a été bien pensé ?
Mais la question qui a été posée, c'est celle de la justice fiscale dans les efforts. Encore une fois, c'est pas pour le plaisir qu'il faut faire des efforts. Nous refusons l'idée que les efforts ne reposent que sur les uns et pas sur les autres. Et donc, il y a cette taxe pour des revenus exorbitants supérieurs
sur
à 1 million d'euros.
PME,
c'est vrai que ça concerne plutôt des grandes entreprises. Ça concerne plutôt des grandes entreprises du CAC 40. Mais c'est la même règle pour toutes les entreprises avec un aménagement
là, le
pour les clubs de football. Il y a d'autres façons probablement d'aider les clubs de football et le président de la République va recevoir les représentants du monde du football cette semaine.
Donc moi, Harlem Désir, donc moi, hein. C'est difficile d'être premier secrétaire du Parti Socialiste.
Sans doute, mais c'est passionnant.
C'est pour ça qu'il y a des gens qui veulent votre poste.
J'en suis pas si sûr que ça.
Harlem Désir, premier secrétaire du Parti Socialiste, invité d'RTL.